Bonjour à tous. Nous allons prendre un passage qui se trouve dans Philippiens. Alors je vous propose une lecture au chapitre 1 de Philippiens. Et nous lirons à partir du verset 23. Jusqu'au chapitre 2, les versets 11. Donc, Philippiens 1, verset 23, 2, 11. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, qui de beaucoup est le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que, par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute âme confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors ici, nous voyons que Paul va être jugé pour sa foi, mais il pense être libéré. Et il voulait continuer à édifier ses frères de Philippe pour qu'ils grandissent spirituellement. Alors pour lui, sa libération serait un sujet d'exaucement et d'action de grâce devant Dieu. Tout le monde se réjouirait et dirait « Merci Seigneur d'avoir délivré Paul ». Alors, il les aime. Hein. C'est lui qui a fondé cette église. Et il leur écrit de sa prison de Rome. Malgré sa situation, là nous lisons toutes les épîtres, hein, nous trouvons étonnant qu'il éprouve de la joie. Mais il craint pour cette église qu'il a fondée à cause de certains faux docteurs qui pourraient venir l'influencer de la mauvaise manière, mais aussi surtout à cause de certaines dissensions entre membres. Dans ce passage, il leur donne l'exemple de Jésus-Christ qu'ils doivent suivre. Et c'est un peu ce qu'on a vu ce matin, on a rappelé cela. Et en attendant, Paul les exhorte, et nous l'avons lu au verset 27, il exhorte les Philippiens à se conduire d'une manière digne de l'évangile de Christ. Et en fait, c'est pour chacun de nous ce que nous devons faire et en tout temps. La parole de Dieu nous exhorte à avoir une bonne réputation, que ça vaut mieux que de l'or et des richesses. Et donc, c'est un but de demeurer ferme dans un même esprit. C'est de combattre d'une même âme. Et pourquoi ? Combattre, il y a des buts guerriers, non, pour la foi de l'évangile. Alors, peut-être que nous ne comprenons pas toujours, surtout si tout va bien pour nous, hein, matériellement ou paisiblement, on n'a aucun problème, mais que c'est un combat et que, en fait, Dieu nous demande d'être vigilants et de faire avancer la parole de Dieu, l'évangile de Christ, qui doit être accepté, mais qui est combattu par le plus grand nombre de personnes. Et le Seigneur veut que nous progressions dans tous les domaines spirituels, hein. Il veut que on progresse personnellement et que l'évangile aussi progresse de plus en plus. Mais justement, il y a l'ennemi de nos âmes, le serpent, le Satan. Eh bien, lui, il va mettre un doute en premier lieu sur les enseignements de la parole de Dieu que nous avons cru. Et donc, tout cela pour nous empêcher de progresser personnellement et pour que l'évangile progresse. Alors, il va dire, crois-tu que, est-ce que Dieu a dit que, et il va être celui qui met le doute ou qui sème quelque chose qui va déformer ce que nous avons cru de la parole de Dieu et qui peut-être au début était ferme, compris, mais que nous commençons à laisser de côté ou à douter parce que, eh bien, il y a des choses qui nous interpellent et on ne les comprend pas. Des versets difficiles peut-être. Par exemple, l'assurance du salut. J'ai connu des chrétiennes qui savaient que Dieu les avait sauvés parce qu'ils avaient cru en Jésus, qui avait payé le prix, et qu'ils avaient l'assurance du salut. Et puis, avec le péché, avec les doutes, eh bien, ils perdent l'assurance du salut. Et donc, pour eux, eh bien, après avoir été affermi par la parole de Dieu, après s'être attaché à cette assurance qui donne la paix et qui est justement fait que l'on se base sur Jésus-Christ et pas sur nos sentiments, eh bien, ils ont la crainte et puis ils font naufrage quelque part dans ce qu'ils croyaient. Pour d'autres, ça sera comme nous pouvons le lire dans Corinthiens, ça sera que ben il y a pas de résurrection de Christ. Alors c'est spiritualiser des choses hein, au lieu de les accepter telles qu'elles nous sont dites dans la parole de Dieu. Comme Jésus est venu, ben il reviendra pareil. Et donc il y en a qui doutent du retour de Christ. Donc voilà des choses hein, qui empêchent que nous progressions. Si on doute, par exemple, du retour de Christ, eh bien, continuons. On a le temps. Rien n'est urgent. Même pas d'annoncer l'évangile. Finalement, qui sait, comme certaines églises le pensent, que le royaume de Dieu va s'établir de lui-même sur terre. Alors, le diable veut détruire les églises. Aussi, il va mettre le doute sur ce que nous croyons. Il va éloigner nos enfants, nos jeunes, dans la foi. Chaque église locale doit combattre pour ne pas disparaître au bout d'une génération. En France, on est heureux de voir que les églises évangéliques, baptistes, eh bien, ce sont des églises qui professent la foi et dont les croyants sont pratiquants. Et cela, on le sait parce qu'il y a eu beaucoup de missionnaires dans l'après-guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est récent. Et donc ceux qui ont cru, c'est ceux qui ont accepté la foi pour la vivre et pour la partager. Et puis les générations passent et puis les enfants ne suivent pas pour une raison ou une autre, mais en fait c'est parce que le diable agit et veut que les enfants se séparent de cette foi. C'est pour ça que nous voyons des fois des vieilles églises anciennes et on se dit où est leur foi? Je ne veux pas critiquer les églises en tant que telles, mais on peut dire bien là, autrefois il y avait une foi vivante, et puis maintenant il n'y a plus que quelques personnes qui se maintiennent de la génération du début ou de une génération ancienne quand même, pas du début, mais bon. Mais il n'y a pas d'enfants, il n'y a plus rien, il n'y a plus la foi que l'on espère trouver dans une église qui professe le nom de Christ. Alors, c'est un combat pour ne pas disparaître. Et l'ennemi aussi veut détruire notre témoignage. Et c'est important cela, hein, parce que vous voyez qu'une fois que le témoignage est souillé, eh bien c'est difficile, hein. Regardez Fillon. lui, il était parti pour être président. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas, hein. Mais en tout cas, maintenant, c'est plus difficile parce que sa réputation a été remise en question. Alors que il avait tout pour réussir et on lui prêtait une grande probité. Pour nous aussi, en tant que chrétiens, on nous prête une grande probité. Mais il suffit que, eh bien, l'ennemi nous fasse tomber dans quelques-uns de ses pièges pour que nous puissions aussi être dans... Nous soyons aussi désarmés et nous tombions. Donc, pour vaincre, il faut vivre sa foi. Le Seigneur nous exhorte à ne pas être de ce monde, comme Victor l'a dit, mais des citoyens du ciel. Et nos vies parlent beaucoup, surtout une vie sainte. Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, vous êtes une lettre lue de tous les hommes. Et on peut lire un verset dans deux versets dans Colossiens 1, 9 et 10. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Alors, ça c'est pour chacun de nous une marche. Et vous savez que, eh bien, à un moment donné, comme il dit la parole de Dieu, on n'a rien à se reprocher, on fait des bonnes actions et Dieu visite. Et ceux qui nous calomnient, eh bien, ils rendent grâce parce qu'ils voient en fait quel fruit digne de Dieu se manifeste. Alors l'ennemi aussi veut détruire, et c'est ce que nous voyons dans ce passage, notre unité. Et nous pouvons voir que la vie est un combat, mais la vie chrétienne est un combat. Et évangéliser est un combat. Il ne faut pas prendre cela à la légère. Et il y a des choses que peut-être nous faisons naturellement parce que nous pensons que c'est important. Mais la vie chrétienne est un combat. Il y a des combats que l'on mène chaque jour. Se lever de bonne heure, aller travailler, faire des choses, et élever les enfants. Tout ça, c'est un combat. On le prend à cœur. On ne néglige pas ce qui pourra faire du bien à nos proches, à notre famille, autour de nous, à nous-mêmes. Mais voilà, vivre chrétiennement est un combat et évangéliser est un combat. Alors, il y a beaucoup qui veulent qu'on parle de tout sauf de la foi. Et on peut voir des hommes politiques qui font du porte-à-porte, qui ont des bus pour aller de village en village accueillir les gens pour discuter avec eux. Il y a ceux qui ils mettent les affiches les plus belles en couleur avec des slogans. Il y a aussi tout ce qui se fait par la télé, par la radio. Alors il y a beaucoup de moyens qui sont investis pour qu'on écoute un programme. Est-ce que nous faisons ça? Est-ce que nous pourrions le faire? Et c'est tellement difficile. Alors on se dit, ah, il y a des pays en Amérique, on peut le faire. En France, qu'est-ce qu'on nous dit? Et c'est ceux-là même qui font tout ça, ces hommes politiques, et disent, la foi doit demeurer dans le domaine personnel, intime. Eh bien, c'est pas vrai. C'est plus valable d'annoncer l'évangile que d'annoncer un programme politique qui ne va pas être respecté. Et nous devons respecter la parole de Dieu. Et donc, la chose importante, c'est qu'il faut être ensemble. C'est ensemble que nous devons combattre. Quelquefois, on voit des films de KPDP ou de ceux qui font la justice eux-mêmes, les justiciers. Alors, on voit que tout seul, ils arrivent à tuer, à battre des ennemis en grand nombre. Quelquefois, ils sont 50 ou plus. Alors, ils sont tout seuls. Il y a D'Artagnan et les autres mousquetaires, les trois mousquetaires. Alors, eux, ils sauvent la royauté, ils sauvent la France, ils font tout, quoi. Mais finalement, que peut faire un homme seul? La parole de Dieu nous dit qu'ensemble, nous formons un corps d'élite, et nous devons combattre le bon combat de la foi, annoncer l'évangile et vivre pour refléter Christ. Et donc, c'est ensemble. C'est peut-être comme ça que quand quelqu'un va mal, eh bien, les autres peuvent le supporter, le relever. Quand on critique un, eh bien, il y a les autres qui sont là et disent, ah ouais, lui il a fait ça, mais regardez tout ce qu'il a fait avant, regardez tout ce que fait son église, regardez le témoignage de son église. C'est quelque chose que nous pouvons comprendre. Quand les hommes politiques disent « nul n'est parfait », oui, nous non plus, nous ne sommes pas parfaits, mais nous tendons vers la perfection et nous avons Dieu qui nous aide, qui est avec nous. Et c'est ce qui est important. Le travail d'équipe est efficace pour avoir la victoire. Même D'Artagnan, il avait besoin des trois mousquetaires. Tous pour un, un pour tous. C'est le slogan qu'ils avaient. Alors, le diable, lui, il sait qu'il a un slogan. C'est diviser pour régner. Les hommes politiques aussi. Diviser pour régner. Mais l'unité triomphe du malin. Voilà ce que nous pouvons comprendre. Et c'est pour cela que dans la parole de Dieu, il nous est souvent, comme dans ce passage et dans d'autres, présenté la nécessité de l'unité. Alors, dans le verset 27, il nous est dit, dans Philippiens 1, « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. » Et là, on pourrait traduire dans le sens de combattant ensemble comme des athlètes. Alors, il y a des sports individuels, mais il y a aussi des sports collectifs. Dans la parole de Dieu, Paul emploie des images de l'athlétisme, hein, des jeux ismiques, c'est les Jeux Olympiques. Et il dit, courez pour avoir la couronne, chacun. Mais ensemble, c'est aussi un travail d'équipe qui rappelle le sport. Hein. Ensemble, une équipe gagne. Alors, si on prend l'image du sport collectif, alors en Amérique, c'est le basket et le football américain qui ressemble au rugby. En France, c'est le football et le rugby, entre autres, hein, mais c'est ce qui est important. Et pour cela, je me fais penser à un événement qui s'est passé et que tout le monde connaît ici, même si vous n'aimez pas le foot, c'est la victoire de l'équipe de France de football à la Coupe du Monde. En quelle année ? 98. C'est marqué dans le cœur de tous les Français patriotes. C'est la Coupe du Monde, la première et la seule que l'équipe de France a gagné. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé là ? Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'entraîneur, il était critiqué de tout le monde, des journalistes sportifs, c'est Aimé Jacquet. Et donc, on ne donnait pas une chance à la France. Et lui, il a tenu ferme. Hein. L'équipe de France, eh bien, il y avait des inconnus, mais il y avait des gens un peu célèbres, mais après, ils sont devenus célèbres. Mais, finalement, ce n'était pas une équipe extraordinaire, parce qu'elle a marqué peu de buts. Sauf à la fin, ils ont marqué 3-0 à la finale. Et 1 et 2 et 3-0. C'était le slogan. Mais c'est une équipe qui est arrivée petit à petit, qui a passé les étapes en gagnant, en faisant des petits matchs, c'est-à-dire des petites victoires, mais des victoires, puisque c'est quand même les plus grandes équipes du monde. Et puis, donc, finalement, ils ont gagné la finale. Et alors, c'était ensemble. Et c'est là que, eh bien, on a félicité l'entraîneur, on a félicité tous les joueurs. Mais alors, si ça vous intéresse, mais il y avait des gens qui ont gagné, qui n'étaient pas connus, qui sont devenus célèbres. Et il y avait, en fait, ils étaient tous vainqueurs. Et ce qui est intéressant, c'est que il y en a qui ont, je crois qu'il y en a qui n'ont pas joué. Et puis, il y en a qui ont joué quand il le fallait. Et puis, il y en a un, il a joué quelques minutes de la demi-finale et la finale. Parce que un qui est célèbre, Laurent Blanc, tout le monde le connaît, hein, il a été entraîneur de l'équipe de France, du Paris Saint-Germain. Et donc, celui-ci, il a pris un carton rouge, alors il a été obligé d'être remplacé pour le match. Et c'est Franck Leboeuf, alors, il a joué un match, la finale. Voilà sa gloire. Sa gloire, c'est que il était parmi les derniers, il est devenu le premier. Et on le connaît justement, juste pour ça. Alors d'autres ont marqué des buts, puis la plupart n'ont pas marqué de buts. Et c'est l'équipe qui a gagné. Et donc, il y en a qui... On retient encore leur nom, hein. Didier Deschamps, parce qu'il est entraîneur de l'équipe de France maintenant. Laurent Blanc, comme je vous ai dit. Zidane, vous le connaissez? Tout le monde connaît Zidane. Et donc, voilà. Mais est-ce que vous connaissez Diomède? Qu'est-il devenu? Vous connaissez Diomède? Guy Varche. Moi, je suis obligé de regarder pour voir qu'il existe et qui c'est. Hein. Et puis, Candela. Mais en fait, ils ont joué dans des clubs, c'est des bons d'avant. Et puis, ils étaient là. Ils ont été vainqueurs. Alors, finalement, on voit que c'est la détermination de l'entraîneur, c'est l'ensemble, la cohésion, l'unité qui a vaincu sur toutes les équipes et les équipes favorites. Peu s'en est fallu que l'on disparaisse. C'est un verset à peu près de la parole de Dieu. Peu s'en est fallu qu'on soit englouti. Peu s'en est fallu. Eh bien, est-ce que la mort du Seigneur, c'est une défaite? C'est une victoire? Voilà, en fait, des choses importantes qui font que ceux qui semblent être les ordures de ce monde, comme nous, eh bien, sommes les plus que vainqueurs, parce que nous avons cru à l'évangile de la grâce. Alors, ici, il nous est dit, au verset 28, sans se laisser intimider par les adversaires. Ils peuvent être nombreux, variés, les oppressions fréquentes. Mais on est averti de cela. Hein. Le Seigneur nous dit que prenez courage, vous aurez des tribulations dans le monde, mais j'ai vaincu le monde. Et puis, il est dit par Paul dans 2 Timothée 3:12, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alors, on voit que Paul, lui, il écrit de la prison de Rome. Il était persécuté par les Juifs, par les païens, par les Romains. Je crois qu'il était persécuté par tout le monde. Et même par ceux de l'Église, de certaines églises, comme à Corinthe. Et finalement, eh bien, en Christ, il nous est exhorté de demeurer ensemble, fermes, pour combattre le bon combat de la foi. Alors, à la finale de la Coupe en 98, c'était le Brésil qui était favori. Ils ont perdu 3-0. Et donc, voilà que nous, qui sommes rejetés du monde, unis, eh bien, nous pouvons vaincre et être ceux qui attendent que le Seigneur revienne d'une manière sainte. Alors, au verset 30, nous voyons que c'est un combat. Et un combat, il y a des épreuves. Et nous connaîtrons tous des épreuves de la foi. C'est un combat dans le sens même d'agonie. Et pour tous, c'est le même combat. C'est pour que notre témoignage puisse porter du fruit. Et pour nous, nous devons faire confiance à Christ. Nous devons passer les épreuves pour pouvoir croître. Et finalement, ensemble, ça produit la joie dans la victoire. Et c'est ce qui est important, hein. Quelle joie quand les Français ont gagné. C'est oublié. Comme dit Paul, tout ça, c'est des couronnes corruptibles. C'est éphémère. Mais nous, c'est pour une couronne incorruptible, c'est pour une gloire éternelle. Ça vaut le coup de combattre ensemble. Ça produit la joie dans la victoire. Et au verset 29, il est dit que il nous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Et nous comprenons que c'est une grâce de croire en Christ. Alors, les gens pensent faire plaisir à Dieu un croyant, ils lui font une faveur. Ah, je vais t'écouter ce que tu me dis. Et oui, je peux croire. Hein. Et certains disent, eh bien, si Dieu me guérit, si Dieu me bénit, si il enlève tous mes problèmes, s'il me fait gagner au loto, eh bien, je vais le servir, je le servirai. Et donc, on veut faire une faveur à Dieu en croyant. Mais au contraire, c'est lui qui nous fait une grâce. C'est une grâce de croire en Christ. Je peux dire, eh bien, heureusement que j'ai cru. Hein. Et Paul disait de même, hein. Moi je suis un blasphémateur, un meurtrier. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Hein. Et la plupart des chrétiens ont ce témoignage qu'ils seraient dans des situations terribles s'ils n'avaient pas cru. Alors, il nous est dit aussi de la même manière que c'est une grâce de souffrir pour Christ. Et nous pouvons constater que le combat, il a commencé quand nous avons cru. Dès que nous avons cru, eh bien, on avait la joie de dire « Ouais, super, je crois en Jésus. Regardez l'évangile, mais c'est super, Jésus est mort pour mes péchés, j'ai la vie éternelle, tout ce que j'ai fait c'est pardonné, c'est merveilleux. » Et puis on commence à rencontrer des obstacles et les voleurs de joie se présentent devant nous et ils nous disent « Allez, c'est bon, réfléchis un peu hein, et fais attention à cette secte où tu es tombé. » Et tu ferais mieux de réfléchir. Et puis, finalement, tu peux croire, mais continue quand même, hein, ne t'occupe pas trop de ces choses, hein, comme les hommes politiques. Garde-le dans la sphère privée. Alors au début, petit à petit, on veut nous mettre la camisole de force. Pour pas qu'on bouge, pour pas qu'on dise quoi que ce soit. Le baillon. Et on voit que dès qu'on a cru, le combat a commencé. Alors, pour nous, c'est aussi une grâce de combattre et de souffrir. Et là, dans ce passage, nous voyons que ce qui est important, et Paul, dans son épître, avant tout, parle de ça, hein, il veut que l'on soit unis dans l'amour. Alors, pour lui, comme nous pouvons voir au chapitre 2, verset 2, le sujet de joie, c'est d'avoir une même pensée, un même amour, une même âme, une seule pensée. Et nous avons, comme pour lui, un sujet de se réjouir, des atouts. C'est la consolation en Christ, au verset 1. Hein. L'encouragement dans l'amour. La communion de l'esprit. La compassion et la miséricorde. Voilà ce que sont nos atouts. Et il nous est dit en plus de ne rien faire par rivalité, au verset 3. De ne rien faire par vaine gloire. Voilà ce qu'il nous est dit. Alors là, pour que nous comprenions bien, il va prendre l'exemple de Christ. Et ne rien faire par rivalité, par vaine gloire, c'est agir avec humilité. Estimer les autres supérieurs à soi-même. Et nous savons que l'égoïsme est causé par l'orgueil. Il nous est dit de considérer les intérêts des autres, ne pas penser à soi-même, ce qui n'est pas avoir une basse opinion de soi-même, hein, mais quels sont les besoins des autres. Et donc, l'humilité, qui c'est qui la représente le mieux? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il nous est dit ici d'avoir, au verset 5, la pensée de Christ, qui est l'exemple suprême. Il s'est dépouillé pour nous. Alors, ici, du verset 2 à 11, c'est une sorte d'hymne, de théologie sur Christ qui nous est dit, et un enseignement qui était chanté, qui était transmis dans l'Église, et finalement une sorte de confession de foi sur Christ. Et il est important d'avoir pour chacun de nous édifié une certaine confession de foi pour s'en référer, pour ne pas oublier. Et on peut dire que ce passage, il est inséré pour nous aider à retenir ce qu'est Christ. Alors moi, j'aimerais juste lire, et c'est rapide, ma confession de foi sur Dieu et sur Jésus-Christ. Parce qu'il nous est dit que Jésus-Christ est Dieu. Alors s'il est Dieu, qu'est-ce qu'il est? Regardez. Alors pour moi, ma confession de foi, c'est: j'adore un seul et unique vrai Dieu vivant en trois personnes, Père, Fils, Saint-Esprit, dont je reconnais l'égalité et la personnalité distincte dans l'unité. Jésus égal de Dieu. Je crois que Dieu est esprit, lumière, vérité, amour, vie, fidélité, transcendant à l'homme et son juste juge. Je crois que Dieu est créateur et souverain de toutes choses, éternel, infini, omniprésent, immuable, tout-puissant, omniscient, parfaitement sage, saint, juste et bon, auxquels sont dus au suprême degré à lui seul, obéissance, crainte, confiance, reconnaissance, amour, gloire, louange et adoration. Et vous savez, quand vous croyez ce genre de choses, eh bien, vous allez voir que ces choses sont attaquées. Par exemple, vous voyez que j'ai dit que Dieu est créateur. Eh bien, cette semaine, j'ai acheté des revues. Il y en a plusieurs. Et puis, j'ai vu qu'il y avait à la télé des reportages sur le premier homme. Et on nous parle de l'évolution, on nous parle de beaucoup de choses, mais on ne nous parle pas de Dieu créateur. Et justement, ce sont des théories qui combattent notre foi à un créateur. Et bien, quand nous savons que Dieu a créé et le créateur, et bien nous sommes affermis face à tout ce qui pourrait contredire cette doctrine. Et d'autres choses. Alors, pour Jésus-Christ, je crois que Jésus-Christ, la parole faite chair, est le Fils unique de Dieu, engendré du Père, coéternel et consubstantiel à lui, et par qui toutes choses sont et subsistent. Je crois que descendu des cieux, donc Philippiens, conçu par la vertu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, il est réellement homme, sans le péché, tenté comme nous en toutes choses, mais resté parfaitement saint et réellement Dieu, ces deux natures en une seule personne, gardant leur propre caractère et étant unis avec harmonie. Je crois que le Fils de Dieu s'est volontairement abaissé, qu'il a souffert pour nous, qu'il est mort sur la croix sous Ponce Pilate, subissant la punition des pécheurs, et qu'il a racheté par son sang versé ceux qui ont foi en lui, ayant satisfait la justice divine qui réclamait une victime expiatoire absolument parfaite pour le pardon des péchés. Je crois qu'après son ensevelissement, il est corporellement ressuscité des morts le troisième jour, il est monté au ciel, et que seul médiateur entre Dieu et les hommes, et intercédant pour les siens, il siège à la droite du Père, d'où il reviendra dans la gloire pour prendre ses saints et pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Alors, nous pouvons voir combien Dieu est grand et combien Dieu nous aime par le fait que, justement, il était Dieu, avec tous ses attributs que j'ai lus, et qu'il s'est fait homme, il s'est abaissé, et puis il est allé jusqu'à la mort insultante de la croix, traité comme un coupable, comme nous l'avons célébré tout à l'heure. Alors, on peut ajouter qu'il s'est incarné pour confirmer les promesses de Dieu, pour révéler le Père, pour devenir un souverain sacrificateur fidèle, pour enlever le péché, pour détruire les œuvres du diable, pour nous donner l'exemple d'une vie sainte, pour préparer sa deuxième venue. Et donc, ici, Paul exhorte à avoir les mêmes pensées que Christ. Quelle humilité merveilleuse, magnifique. L'humiliation a commencé, a dit quelqu'un, dans l'attitude d'esprit de Christ. L'orgueilleux, lui, il désire garder tout ce qu'il possède, mais aussi se procurer tout ce qu'il n'a pas encore. Exemple, bien, Satan. Alors, l'incarnation implique deux choses qui sont essentielles. Christ s'est dépouillé lui-même et il s'est fait semblable aux hommes. Et donc, dans la parole de Dieu, nous voyons qu'il s'est fait pauvre. Malgré qu'il soit Dieu, il a pris la forme d'un serviteur, tout en retenant la forme de Dieu. Il est né dans une étable. Est-ce que quelqu'un est né dans un lieu un peu sordide? Lui, oui. Né dans une étable. Pas où poser sa tête. Ses disciples, ils étaient d'origine humble. Il est assisté des biens de femmes, alors... Peut-être c'est pour certains une insulte d'être assisté des biens de femmes. Pas d'argent pour payer l'impôt du temple, le temple donné par Dieu à Jérusalem. Ami des gens de mauvaise vie, voilà ce qu'on disait de lui. Il s'est laissé oindre par une femme pécheresse. Il a donné sa vie. Il a voulu être un ami pour tous. Il est mort pour les autres. Il a été enseveli dans un tombeau prêté. Voilà. Alors, on voit ici quel est l'exemple de Christ. Alors, la première chose, c'est que il pense aux autres et non à lui-même. Et pour nous aussi, nous devons avoir une préoccupation désintéressée pour les autres. Nous ne pouvons pas garder nos privilèges pour nous-mêmes. Nous devons les mettre au service des autres. Et pour cela, nous devons volontiers y renoncer et payer le prix qu'il faudra. C'est justement différent de Satan, l'orgueilleux. Et puis, il importe d'agir. Alors, j'aimerais lire Jacques 4, 1 à 10. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Alors, on voit pour Christ son exemple, c'est qu'il est le serviteur. Rappelez-vous, il a lavé les pieds de ses disciples et Pierre n'en revenait pas. Comment est-ce possible? Ensuite, que fait ce serviteur merveilleux? Il se sacrifie. Et vous savez, le sacrifice, ça coûte. Est-ce que ça vous coûte d'être chrétien? Ou est-ce que ça vous coûte quelque chose, je dirais? Quoi? Alors, c'est toujours un prix à payer quand on défend la foi et qu'on revendique d'être chrétien et qu'on veut marcher fidèlement dans ses voies. Alors, Qu'a fait le Seigneur ? Il glorifie Dieu. Et notre but ultime du salut, c'est de glorifier Dieu, notre Créateur. Alors, nos bonnes œuvres glorifient Dieu. Et là, en contemplant Christ, on peut être peiné par les mésententes en Christ. Et ça, ici, nous voyons que Paul met le doigt dessus. Il demande cette unité qui fait qu'on est la victoire. Alors, la cause principale de notre mésentente avec autrui est généralement le désir d'agir à notre guise. Ça, c'est quelqu'un qui a dit ça. Si nous passons notre vie en nous mettant au premier rang et que tout le monde en fait autant, il y aura inévitablement des frictions et des disputes. Alors, peut-être que vous vous rappelez la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, ça a été un fiasco. Alors, même les joueurs ont fait grève. Alors, enfin, en France, on fait grève. Mais même les joueurs payés des millions font grève. Et aussi, ça me fait penser à une équipe de foot. Alors, en Angleterre, l'an dernier, d'habitude, dans tous les championnats, c'est les deux équipes ou trois qui ont le plus de budget qui gagnent. C'est toujours les mêmes. Et en Angleterre, c'est une qui est parmi les dernières qui a gagné. Alors, vous savez que là-bas, c'est à Paris. Eh bien, personne donnait Leicester, vainqueur. Et ils ont gagné. Et cette année, en mi-championnat, eh bien, ils ont viré l'entraîneur qui avait reçu toutes les récompenses parce qu'ils n'arrivaient pas. Ils perdaient beaucoup de matchs. Et ils sont mal classés. Et comment les choses ont changé face aux circonstances? Eh bien, vous voyez, la différence entre une unité, c'était des footballeurs qui n'étaient pas aussi payés que les autres, mais qui ont vaincu. Et puis, quand ils ont eu la victoire du championnat, l'entraîneur a dit, ne partez pas dans les autres clubs où on va vous payer plus. Alors, je sais pas si c'est ce qu'ils ont fait, mais finalement, ils ont échoué. Et donc, on peut voir que cette belle unité qui a fait que ils ont vaincu, eh bien, maintenant, ils sont parmi les plus mauvais. Alors, pour nous, nous devons avoir qu'un seul objectif, c'est honorer Christ et faire sa volonté. Et j'aimerais lire, pour terminer, Éphésiens 4, versets 1 à 7. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur et une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Et on peut lire verset 17 à 25. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté, jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Paul dit « Mettez le comble à ma joie. » Paul se réjouissait dans ses chaînes et voulait que les Philippiens se réjouissent. Réjouissons-nous dans l'amour, l'humilité et le service à l'exemple de Christ.